Mesdames, Messieurs, si vous voulez bien, nous allons commencer. Je vous signale que le cours de la semaine prochaine aura lieu en dessous, dans l'amphithéâtre Budé. Pour terminer sur les manuscrits découverts depuis une vingtaine d'années, ceux qui, du point de vue qui nous intéresse, c'est-à-dire de la distinction entre Mahayana et Hinayana et sur la date d'apparition du Mahayana, sont très probablement ceux du Bhadjaur qui sont en cours de publication et sur lesquels nous n'avons pour l'instant que des études préliminaires, mais des études préliminaires faites par Falk et son ancien étudiant Ingo Straur, qui sont tout à fait fiables et sur lesquels on peut faire foi, en tout cas pour ce qui nous intéresse. Voici donc un de ces manuscrits du Bhadjaur tel qu'il apparaissait. C'est un rouleau assez large, plié en deux, et vous voyez le problème pour la lecture. Il faut le déplier sans perdre les fragments, et ensuite on met ça entre deux plaques de verre, et on n'y touche plus. Alors, évidemment, maintenant, grâce au photo numérisé, on peut reconstituer les fragments sans toucher au matériel original, ce qui faire le puzzle sans vraiment toucher au matériel original, mais ça demande quand même un gros travail. Le problème, comme je vous l'ai dit, n'est pas tellement la lecture. La lecture est facile, c'est-à-dire la transcription. C'est le problème et la compréhension du texte et qui repose d'abord sur l'identification et ensuite sur les parallèles. Parce que la langue n'est pas du tout unifiée, son orthographe encore moins. Et on en est à se demander si les différences tout à fait considérables qu'il peut y avoir d'un texte à l'autre tiennent à des variétés dialectales ou tiennent tout simplement au fait qu'un certain nombre de gens qui écrivaient en Gandhari n'étaient pas de la région. En tout cas, la première série de manuscrits du Bhadjaur, qui est arrivée à l'université de Peshawar et sur laquelle on a des renseignements qui sont plus fiables que les renseignements d'antiquaires, mais qui ne sont fiables quand même qu'à moitié. Ces manuscrits du Bhadjaur ont été trouvés, d'après ce qu'on nous a dit, dans une espèce de caisse en pierre carrée de 50 cm de diamètre. Alors, comme je n'ai jamais vu un carré de 50 cm de diamètre, je suis un peu gêné, mais c'est ce qui est indiqué. Mais apparemment, ça n'a pas été trouvé dans un stupa, ça a été trouvé dans une cellule monastique et ça a été trouvé dans une espèce de coffre fait de grandes plaques de pierre, ce qui signifie que nous avons là un restant de bibliothèque. Et ce restant de bibliothèque est extrêmement mêlé. Il y avait 18 rouleaux comme celui que vous voyez là. Et dans ces rouleaux, on a identifié divers sutras de type Hinayana, des collections de vers, des anthologies, des textes d'Abhidharma, des textes de formules de protection, des textes appartenant au traité de discipline, alors qu'il n'y en a strictement aucun dans les fragments dits de Hadda, et surtout, d'une part, un texte qui est panindien, qui est un recueil de formules de gouvernement, ce qu'on appelle l'Arthashastra ou une Nitishastra, et un texte clairement du Mahayana qui décrit le paradis d'un des Bouddhas du Mahayana, Akshobhya, et qui est apparemment une première version de l'Akshobhya Vyuha, qui est un des grands textes du Mahayana qui décrit le paradis Abhirati où vit Akshobhya. Et ce texte est daté, en gros, par une datation radiocarbone qui ne veut pas dire grand-chose, mais aussi par l'étude paléographique qui, elle, est plus sûre, d'environ du IIe siècle de notre ère. C'est-à-dire qu'au IIe siècle de notre ère, on a non seulement le début de la rédaction d'un grand texte du Mahayana, on le voit, on voit ses premiers, si j'ose dire, ses premiers balbutiements, et tout ceci se trouve pêle-mêle avec des textes qui relèvent du Hinayana, et donc dans un monastère qui probablement relevait d'un Nikaya de l'ancien véhicule. Et puis est apparue une autre collection du Bajaur, dont on ne sait pas exactement où elle a été trouvée, si elle a été trouvée dans le même monastère ou dans une autre, et qui est arrivée sur le marché de Peshawar en 2004 et qui a été partagée en trois. Alors, sur ce tiers de la collection, un tiers est arrivé entre les mains de nos collègues de l'Université de Peshawar et par la suite de nos collègues de l'Université de Berlin. Et nous avons là-dedans un texte du Digha Nikaya, enfin, en termes pali, c'est-à-dire d'un volume de sutras anciens qui s'appelle le Sutanipata, un texte original en vers sur la vie du Bouddha, qui est important également parce que la première vie du Bouddha en vers est en sanskrit, non pas en gandhari, et elle est à peu près de cette époque, elle est attribuée à Ashvaghosha, elle est certainement d'Ashvaghosha. Il y a un nouveau Dharmapada, c'est-à-dire une série de strophes éducatives dont il y a un autre exemple célèbre et connu depuis longtemps qui est le Dharmapada de Khotan, édité par John Bross. Et ceci est important, et ce n'est pas encore publié, mais il va falloir regarder les variantes entre les deux Dharmapada. Une collection d'histoires légendaires qu'on appelle les Avadana et un texte de la grande vertu de sagesse, la Prajna Paramita, qui contient des parallèles aux chapitres 1 et 5 de la Prajna Paramita en 8000 vers. Et il semble, d'après le colophon, qu'il y ait eu deux textes semblables et qu'on n'en ait récupéré qu'un pour l'instant. Alors, ceci est important parce que, autant qu'on puisse savoir par les publications préliminaires, ce texte de la Prajna Paramita n'est pas celui qui a été transmis par les... ensuite, et dont nous avons des versions sanscrites et des traductions chinoises en plusieurs milliers de vers, mais c'est une variante ancienne et on pourrait presque appeler un prototype. Donc là aussi, on voit à peu près à la même date, au IIe siècle, comment un texte du Mahayana est en train de se faire et comment il se fait dans un monastère bouddhique qui, par ailleurs, à des textes bouddhiques tout à fait conformes à ce qu'on trouve dans le canon bouddhique pali ou dans les canons chinois censés venir des écoles du petit véhicule en sanskrit, Dharmaguptaka ou autre. Ce sont des choses que ceux qui ont suivi mes cours sur le Sutra du Lotus ou sur... la Vimalakirti, ce sont des choses sur le Vimalakirti Nirdesha, ce sont des choses qui ne sont pas tout à fait étonnantes. D'abord, on a des traductions anciennes chinoises de textes Mahayana qui montrent que vers le IIe siècle, ces siècles existaient. Et puis, les techniques de reconstruction des textes montrent que manifestement, il faut pousser jusqu'au 1er siècle de notre ère au moins pour avoir les prototypes, et que ces prototypes pourraient être même le plus ancien. Mais là, on a la preuve. On a la preuve deux fois. Et on a la preuve dans une partie quand même très excentrée du monde indien. Ça ne veut pas dire du tout que le Mahayana vienne du Bajaur. C'est tout simplement que les possibilités de conservation de textes qu'offrent ces régions montagneuses du Pakistan font que, par hasard, ces textes ont été conservés au Bajaur. Il est tout à fait possible que les originaux ou l'initiative viennent d'un monastère du nord de l'Inde, de Mathura, ou viennent même du sud de l'Inde. Nous n'en savons rien. Mais ce que nous savons, c'est que ça a atteint les monastères très excentrés, encore une fois, du nord-ouest, au plus tard à la fin du 1er siècle de notre ère, et que ces textes ne semblent pas du tout avoir choqué les moines qui appartenaient, ordonnés dans ce monastère, et qui appartenaient à des écoles du petit véhicule, et que ceux-ci, très probablement, ont participé à la transmission, d'abord à la traduction, puisque la Gandhari est le dialecte local, et il est possible que ces textes étaient traduits d'un autre moyen indien, sinon à la création, en tout cas à la transmission de ces textes. Et donc on peut considérer comme certain, d'une part, qu'il y a une présence du Mahayana dans le nord-ouest de l'Inde au 1er siècle de notre ère, c'est-à-dire au moment de la création de l'art gréco-bouddhique, et que cette présence du Mahayana ne se traduit pas par une différenciation fondamentale entre moine mahayaniste et que moine hinayaniste, et encore moins probablement entre fidèles laïcs, hinayanistes et mahayanistes, mais que ça forme un même milieu qui ne s'est pas fortement différencié, qui n'est pas hostile les uns aux autres non plus à cette époque. La différenciation se fera plus tard, et à ce moment-là, l'article de Gregory Chopin consacré à l'apparition du terme Shakya Bhikshu et Shakya Upasaka, qui désigne les moines mahayanistes et les fidèles mahayanistes, à ce moment-là, le terme apparaît, mais il apparaît très tard, vers le 5e, 6e siècle. Il apparaît bien plus tard, à partir du moment où les gens ont commencé à se différencier en fonction des livres auxquels ils prêtaient foi. Ceci n'a rien d'étonnant. L'histoire du christianisme ancien est tout à fait identique. Pendant les premiers siècles du christianisme, les chrétiens ne se distinguaient pas beaucoup des juifs. Alors tout ceci oblige à revoir de très près tout ce qu'on raconte sur le contenu théologique et sur l'appartenance des reliefs gréco-bouddhiques, et à considérer comme tout à fait caduque tout ce qui repose sur une opposition ferme entre l'ancien véhicule et le petit véhicule. La première chose à rappeler, et je le dis beaucoup depuis 2 ans, mais apparemment, je suis un des seuls à le dire, et comme je ne l'écris pas pour l'instant, personne d'autre ne le sait, enfin, vous avez ce privilège de le savoir, c'est qu'au 1er siècle de notre ère et au début du 2e siècle, c'est-à-dire à peu près à l'époque de Kanishka, la confusion dans les esprits est très grande. Je ne parle pas ici de Mathura, je ne parle que du nord-ouest. Quand on rajoute Mathura au nord-ouest, on voit que la confusion est encore plus grande. Vous avez ici l'une des 5 ou 6 monnaies célèbres de Kanishka, qui est représentée ici, avec son nom qu'on dit très bien, Shaonano Shao Kaneshko, Kaneshki, là. Monnaie de Kanishka, tout à fait sûr, avec le type du Bouddha, Bodo, et une statue du Bouddha tout à fait classique et probablement tout à fait célèbre dans son temps et qui est décrite comme sur toutes les monnaies de Kanishka. Il est appelé par son nom, Bodo, comme sur d'autres images. On mettra Mao pour la lune, ou on mettra le nom du soleil, on mettra le nom de la divinité. Ça, ça va très bien. Et lorsque l'on passe à la même époque aux monnaies de bronze, qui ne viennent pas forcément du même atelier, mais qui sont également de Kanishka, vous voyez, la qualité est nettement moins grande. On lit Kanishko ici, mais quand on veut bien, c'est dehors. Ces monnaies sont illisibles en elles-mêmes, il faut en réunir toute une série pour compléter les légendes qui sont incomplètes par des légendes qui sont plus complètes. La légende est incomplète parce que le flanc de bronze était trop petit. Le coin est plus grand. Mais comme il y a des variations dans l'endroit où frappe le coin, sur une autre monnaie, elle sera coupée ici et elle apparaîtra comme ça. Et donc, on voit le reste de la légende. On voit très bien ici, par exemple, que le coin faisait ceci. Donc, le travail a été très bien fait par John Cribb du British Museum. Il n'y a pas à revenir là-dessus. Il est sûr que c'est une monnaie de Kanishka. Mais sur cette monnaie de Kanishka, vous serez obligé de lui faire confiance et de me faire confiance. Le Bouddha qui est représenté sur cette monnaie, qui est très très proche de celui-ci, à part le fait que c'est un Bouddha représenté marchant. Et je vous rappelle qu'il y a des inscriptions du frère Bala qui indiquent que l'on installe ces statues sur le promenoir du Bouddha, donc ça a dû avoir de l'importance, la marche du Bouddha. Enfin, c'est le même type de Bouddha. Et cette monnaie, elle n'est pas identifiée par Bodo, mais par Sakamano Bodo, c'est-à-dire le Bouddha Shakyamuni. Dans un certain nombre d'inscriptions, de même, le Bouddha est présenté comme Shakyamuni. Alors, ça peut paraître pour aller de soi. Effectivement, pour tout le monde, ça va de soi, ça ne pose pas de problème. Mais si on commence à se poser des problèmes, on peut se dire que si les graveurs de coin ont eu l'idée de graver à côté du nom de Bouddha son nom de famille, Shakyamuni, c'est peut-être qu'il y avait d'autres Bouddhas. Et effectivement, il y a des monnaies de bronze très très curieuses, qui sont également de Kanishka. Donc vous avez ici le cas. Et vous avez un Bouddha assis cette fois-ci. Et la légende, également en grande partie restituée, elle se lit comme ça. Bouddha Maitrego, c'est-à-dire c'est un Bouddha Maitreya. Or, dans nos classifications habituelles, le Bouddha Maitreya n'est pas encore un Bouddha, ça n'est qu'un futur Bouddha, un Bodhisattva. Quand on regarde un peu les inscriptions de Mathura et qu'on les voit d'un œil neuf, on s'aperçoit qu'il est normal d'appeler d'une certaine manière Maitreya un Bouddha, puisqu'on appelle le Bouddha également un Bodhisattva. Je vous en ai parlé au cours d'une précédente séance, je ne reviens pas là-dessus, mais il est tout à fait clair que dans les premières années du règne de Kanishka, ou même jusqu'à la fin, pour un certain nombre de gens, la différence entre Bouddha et Bodhisattva n'était pas grande. Donc déjà qu'il y avait une nécessité de séparer le Bouddha Shakyamuni du futur Bouddha qu'on appelle Bouddha, qui est un Bodhisattva. Et quand vous regardez les textes mayaniques, à part le fait que le Bouddha principal, comme Amitabha, est assis, ne fait rien et ne dit rien, alors que les autres agissent, quelqu'un comme Avalokiteshvara a tout à fait tous les pouvoirs d'un Bouddha. Rien ne l'en distingue, à part le fait que lui, il est souvent debout, et presque toujours debout. Et quand on a regardé d'un peu près le Vimalakirti Nirdesha, on voyait très bien que dans certains paragraphes, Vimalakirti apparaissait comme un véritable Bouddha. La confusion, elle n'est pas simplement là. À la même époque, disons, dans le premier siècle, la première moitié du premier siècle de notre ère, disons vers 50 en gros, au Swat, vous avez des reliefs qui ne représentent pas le Bouddha sous sa forme humaine. Le Bouddha, c'est la descente au ciel, du ciel des 33 dieux. Où théoriquement, vous devriez avoir le Bouddha ici qui descend. Vous avez la nonne Utpala qui l'accueille ici. Et vous avez les pieds du Bouddha qu'il symbolise. C'est ce qu'on appelle les représentations non humaines du Bouddha. Mais ne croyez pas qu'à partir du moment où l'image du Bouddha s'est imposée, même sur les monnaies, on renonce à cette iconographie qui ne veut pas représenter le Bouddha. Vous avez une adoration des trois joyaux ici, qui est manifestement beaucoup plus tardive, où le Bouddha est également représenté par ses pieds. Il y a eu, pendant tout le premier siècle et au début du deuxième siècle, certainement, donc y compris sous Kanishka, des traditions divergentes, iconographiques, qui représentent également des traditions divergentes sur le plan de l'interprétation de la doctrine, c'est-à-dire des choses tout à fait comparables à ce qu'on a vu dans les collections de manuscrits, entre des manuscrits archaïques, comme ceux-ci qui, malgré le style, est du point de vue des idées religieuses archaïques, et puis des représentations plus modernes, ce sont les textes du Mahayana dans le Bajaur, ce sont les représentations humaines du Bouddha. Il y a aussi des choses qui nous apparaissent évidentes, sur lesquelles je reviendrai peut-être un jour en détail. Alors, l'un des moyens jusqu'à présent utilisés pour distinguer les reliefs du Mahayana des reliefs du Hinayana, ce sont les inscriptions. Et la plupart des inscriptions anciennes, celles qui sont publiées dans le corpus de Senkonov, qui date de 1929, et qui représentent à peu près moins de la moitié des inscriptions que l'on connaît maintenant, mais les inscriptions anciennes sont du type suivant, en telle année, sous tel roi, telle personne a établi des reliques dans un stupa, on traduit par « en l'honneur », c'est presque le culte, mais je vais traduire par « en l'honneur du roi régnant, en l'honneur de son père et de sa mère, pour le bien et le bonheur de tous les êtres ». Et parfois, il y en a qui ajoutent « pour que tous les êtres obtiennent le nirvana ». Donc là, nous avons des souhaits qui ne font pas du tout allusion à la doctrine essentielle du Mahayana, c'est-à-dire que tous les êtres doivent non pas tenter d'obtenir le nirvana, c'est-à-dire une espèce de disparition totale après leur dernière existence, mais doivent demander à renaître sans cesse pour obtenir un jour la Bodhi, devenir eux-mêmes des Bouddhas et sauver le monde tant qu'il reste quelqu'un de vivant dans le monde, c'est-à-dire éternellement. Les bodhisattvas sont destinés, si vous regardez bien les textes, à ne jamais devenir Bouddha. Donc, ces souhaits sont traditionnellement, les sculptures qui portent ces souhaits ou les inscriptions qui portent ces souhaits sont traditionnellement attribuées au Hinayana. Et celles qu'on attribue au Mahayana sont les inscriptions très rares et en général plus tardives, où le vœu est fait que tous les êtres après arrivent un jour et obtiennent ce que les textes appellent la suprême connaissance, Uttarajñāna, qui est en fait la Bodhi. Alors là, c'est tout à fait clair. On ne demande pas que les êtres cessent de souffrir. On demande qu'ils deviennent des Bouddhas, donc Mahayana. Et puis, vous avez ce relief de l'an 5 sur lequel on n'a pas fini de parler. C'est très curieux. Je regarde de temps en temps ce qu'on écrit là-dessus pour des raisons diverses. Et les épigraphistes ne reviennent pas là-dessus et les historiens de l'art ne regardent pas l'inscription. De même que moi, je n'avais pas regardé les images quand j'ai traduit l'inscription. Mais l'inscription est tout à fait claire et en dehors même de la date, qu'est-ce que nous dit l'inscription ? Bon, la date est controversée, à mon avis, il n'y a pas de raison que ce soit controversé, mais puisqu'elle est controversée, elle est controversée. Si vous regardez... La date nous dit dans l'an 5, un dénommé Buddha Nada, qu'on peut traduire soit qui a sa joie dans le Bouddha ou qui crie comme le Bouddha, puisque Nada peut représenter Ananda ou Nanda ou Nada. Bon, la traduction, mais enfin, c'est un nom bouddhique, c'est un nom de moine. Et en effet, parce que ce moine, il est Trepitakasa, c'est quelqu'un qui se vante de connaître les trois corbeilles du canon bouddhique du petit véhicule. Ce n'est pas très étonnant, puisque à la même époque, dans la région de Mathura, à Mathura, dans la région de Mathura, le frère Bala et sa sœur se vantent aussi de connaître les trois corbeilles. Alors, pas nécessairement, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils connaissent par cœur tout ce qui existe aujourd'hui dans le canon bouddhique Pali, qui est quand même un ensemble de volumes considérables, mais en tout cas, ils en connaissent une partie. Et donc, c'est un moine érudit, spécialisé dans le canon bouddhique ancien. Or, ce moine érudit, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il dédie une monnaie, il dédie une statue où apparaît à côté du Bouddha un bodhisattva qui porte un Bouddha assis dans son turban, qui est probablement le Bouddha Amitabha. C'est ainsi que dans des textes iconographiques plus tardifs, on décrit le Bouddha Avalokiteshvara. Dans l'an 5, d'après moi, de Kanishka, mais en tout cas, ce qui est incontestable, c'est que cette statue mahayanique, ce groupe mahayanique, a été dédié par un moine qui est un spécialiste du canon de l'ancien véhicule. Ça n'a rien d'étonnant quand on regarde les découvertes du Bajao. Ça amène à se poser d'autres questions. Il y a toute une série de reliefs qui sont bien connus. Celui-ci est à Berlin et qui ont été commentés depuis très longtemps par Fouché. Ça a été repris par Lamotte. Il y a toute une série d'articles là-dessus, encore un très récent de Madame Santoro, qui commente ce personnage qui accompagne, on dit presque toujours, mais en fait sur un nombre relativement faible de reliefs, le Bouddha, en particulier le Bouddha marchand. Ce personnage, ici, vous voyez, est en train d'écarter les mouches, il a un chasse-mouche, mais sa caractéristique essentielle, c'est qu'il porte cet instrument qu'on appelle un vajra, un foudre ou un foudre de diamant, qui, si vous imaginez la représentation romaine classique, il y a des espèces de flèches ici et ici, là, c'est le tonnerre, et il est le génie protecteur du Bouddha. Et comme il a un foudre dans la main, on l'appelle Vajrapani, celui qui a un foudre dans la main. Très bien. Et c'est un de ces démons convertis, un démon pas très... assez rude, assez terrifiant, regardez sa tête, qui a parfois été dépeint, vous le voyez ici avec son vajra, il a aussi une barbe, il est costaud, et vous le voyez ici, dans, tel qu'il est à Hadda, toujours avec son foudre bien en main, qui montre qui il est, ici représenté comme Héraclès à Hadda un peu plus tard. Tout le monde dit Vajrapani, Hinayana, pas de problème. Le seul problème, c'est que Vajrapani, comme démon protecteur du Bouddha, apparaît seulement dans un texte tardif de Lalita Vistara, un texte du 6e-7e siècle, et que les textes anciens dans lesquels il apparaît, où il prend un rôle de plus en plus important, sont des textes du Mahayana, en particulier le Lotus du Sutra, la Prajna Paramita, et quelques autres, et que par la suite, il va devenir un personnage très important, qui est le Vajradhara, qui signifie la même chose que Vajrapani. Alors, si l'on s'en tient tout simplement à la logique des textes, eh ben, ce superbe Vajrapani, il apparaît dans les reliefs mayaniques. Je n'irai pas jusque-là pour l'instant, mais en tout cas, il n'y a aucune raison de classer ces reliefs désormais comme inayaniques si on veut garder la séparation nette entre le Hinayana et le Mahayana qui en réalité n'existe pas. Mais si elle n'existe pas, il ne faut pas la faire dans l'autre sens en disant que c'est nécessairement du Hinayana. Quand on regarde les grandes statues de culte des Bouddhas, voici deux statues de Sarimbalot, je les ai gardées côte à côte. Vous voyez qu'elles sont reprises d'un recueil d'images. Ceux qui sont allés au Pakistan savent qu'elles se trouvent à l'entrée du musée de Peshawar. Ce sont des statues qui mesurent l'une, je crois, 2,20 m, l'autre 2,80 m. Ce sont d'énormes statues, hein. Ce sont des statues de culte. Alors on peut se demander si ça représente, à la suite de tout ce que je vous ai vous dire, si ça représente un Bouddha Shakyamuni ou si ça représente un autre Bouddha comme Amitabha. Là, la réponse, elle est à peu près simple. Si l'on fait abstraction d'une chose, alors, il y a une chose qui est toujours gênante là-dedans, c'est que l'on sait que, par exemple, par le Mahavastu, mais aussi par toute une série de choses, que la vie antérieure des Bouddhas et leur vie terrestre est toujours identique. Et on a toujours la même série d'épisodes, et donc le Bouddha naît toujours dans une famille de kshatriya, il quitte la maison, etc. Ses vies se répètent à l'identique. Donc, théoriquement, n'importe quel Bouddha, peut-être n'importe quel Bouddha du passé, ou n'importe quel Bouddha de l'avenir, ou n'importe quel Bouddha mahayanique. Bien, si on fait abstraction de ça, qui est une réalité théologique, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit une réalité pratique pour les fidèles, on peut dire de façon à peu près sûre que ces deux statues sont des statues du Bouddha Shakyamuni, pour une raison simple, c'est que c'est le seul qui, dans les textes, soit représenté marchant. Les autres Bouddhas du Mahayana sont toujours représentés assis sur un lotus. Je veux dire dans les textes, hein, pas dans les images, hein, dans les textes. Je connais pas très bien les textes du Mahayana, mais j'aimerais bien être être démenti et qu'on me montre un Bouddha de type Mahayana, marchant et se promenant autour de son paradis, ou même se déplaçant d'un paradis à l'autre. Hein. Dans le Lotus du Sutra, lorsque l'un des Bouddhas vient visiter le Bouddha Shakyamuni et s'installer avec lui dans un épisode célèbre, dans un stupa, il arrive les jambes croisées. Donc, ça, c'est un Bouddha debout. C'est un Bouddha... on peut considérer que c'est un Bouddha du Hinayana. ce qui n'empêchera pas d'ailleurs tous les fidèles du Mahayanique de l'adorer et de lui rendre un culte comme à n'importe quel autre Bouddha. Le statut du, pour un fidèle du Mahayana, le statut du Bouddha Shakyamuni est tout à fait égal à celui du Bouddha des Amitabha ou du Bouddha Akshobhya. On peut se... On a des statuettes de ce type, c'est quelque chose de bien connu. Tout ce type de Bouddha debout, sauf si on a un indice contraire, peuvent être considérés comme des Bouddhas Shakyamuni. Par contre, quand vous avez un Bouddha assis, la question se pose. Il est probable que la clé est dans le socle et que vous avez dans le socle un indice, ce qu'on appelle en jargon d'histoire de l'art indienne un lakshana, un indice qui vous indique quel est le Bouddha. Je dois dire que je n'ai pas trouvé d'image avec un indice clair. Je n'ai pas beaucoup cherché, mais je n'ai pas trouvé. Mais quand le Bouddha est assis, vous pouvez vous dire que puisque les Bouddhas debout sont majoritairement des Bouddhas Shakyamuni, le Bouddha assis a une forte chance d'être aussi Shakyamuni. Il y a, en fait, la seule chose qui va permettre de distinguer très clairement une sculpture de type mahayaniste et qui n'est pas hinayaniste, c'est l'apparition des grands bodhisattvas, et en particulier d'Avalokiteshvara et de Manjushri, qui, eux, n'apparaissent jamais dans les textes du petit véhicule. Donc, à partir du moment où vous avez une statue de culte d'Avalokiteshvara ou de Manjushri. Manjushri, autant vous dire, il n'y en a quasiment pas. C'est surtout Avalokiteshvara. Vous pouvez être sûr que là, on est en présence d'une statue de culte de quelqu'un qui reconnaît le Bouddha Shakyamuni, comme je vous l'ai dit, mais qui demande quelque chose ou rend un hommage de dévotion à un grand bodhisattva qui joue le rôle de protecteur et qui est un personnage très obscur parce qu'on ne sait pas son origine et son nom est incompréhensible. Alors, je ne reviendrai pas sur le nom d'Avalokiteshvara. Certains d'entre vous ont entendu M. Karashima, mais il est clair que le nom est incompréhensible et que ceux qui, comme c'est une divinité indienne, ceux qui auraient dû comprendre son nom, ce sont quand même les Indiens qui manifestement ne l'ont pas compris. Et il n'y a pas de raison que les Chinois l'aient mieux compris que les Indiens. Alors, parmi les bodhisattvas, il y en a un qui est un bodhisattva connu des textes anciens et qui est apparemment bien identifié. C'est le bodhisattva Maitreya, qui est le Bouddha du futur et qui actuellement est en train d'attendre assis tranquillement dans le ciel des 33 dieux que son temps soit venu de souffrir sur terre et d'y obtenir la bodhi. Alors ce personnage est connu depuis longtemps, identifié depuis longtemps par Fouché. L'identification est simple. C'est que Fouché a remarqué qu'il y avait un certain nombre de reliefs représentant les sept Bouddhas du passé. Les reliefs, normalement, mais pas toujours, se regardent en commençant. Vous vous mettez côte au relief et vous devez avoir le relief sur la droite et puis vous avancez. Donc, vous avez là les Bouddhas les plus anciens, le Bouddha Shakyamuni et le Bouddha Maitreya. Ceci est un relief du British Museum qui était dans l'exposition Gandhara, avec une inscription qui a été lue par Falk, qui pose des problèmes de compréhension, mais qui est tout à fait claire et qui, d'après la paléographie, vous voyez, c'est quelque chose qui date du début du règne du Kanishka, fin du règne de Vima, disons, fin du 1er siècle, début du 2e siècle, si vous mettez Kanishka plus tard. Et là, vous avez un personnage qui est vêtu comme un prince, qui a des cheveux comme vous les voyez ici. Il a probablement une espèce de chignon. il a un collier, mais il n'a pas de turban, et il tient ici un petit vase qu'on appelle un kamandalu, qui est en fait le vase à ablution de tous les Indiens, qui est beaucoup plus gros normalement. Alors, on a toute une série de ce point de vue-là. Vous avez ici, sur ce relief qui est au Japon, vous avez de même la série de Bouddhas du passé entre deux donatrices. Et le dernier, c'est Maitreya qui a une auréole et qui est également... On va essayer d'ouvrir ça. Où est-ce qu'il est, monsieur Maitreya? Oui, oui, celui-là, il se regarde pas sur... Alors, où est-ce que je l'ai fait? Attendez. Donc, vous avez une donatrice ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va essayer d'avoir... Aurais-je mal vu? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et Maitreya qui est là. Bon, la photo n'est pas très claire, mais il n'est pas en robe monastique. Il est en dhoti, comme on dit. Il tient ici un petit kamandalu, et il est considéré comme personnage divin. Il a une auréole, alors que les deux donatrices, elles, n'ont pas d'auréole. Il y a d'autres exemples, hein, il y en a beaucoup. Voici une autre série. Alors, celle-ci est tout à fait bizarre parce qu'elle se lit de gauche à droite. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tous les Bouddhas du passé sont identiques. Et puis vous avez Maitreya ici qui a son auréole. Donc, à partir de ce moment-là, on a considéré que... Il y en a encore un autre exemple, peut-être plus clair. Voici un Maitreya prêchant au ciel des 33 dieux, entouré des dieux. Vous voyez qu'il est habillé comme un prince avec un collier, un chignon, et il a ici un petit kamandalu, du moins, je pense. Vérifier. On ne voit pas très bien. Enfin, on peut supposer que c'est ça. Donc, à partir de ça, l'identification paraissait absolument sûre. Et vous avez par exemple ce superbe bodhisattva de marteau, qui est un des rares exemples entiers de Maitreya debout, une statue de culte, hein, c'est une statue qui fait plus de 1 mètre de haut. Vous voyez comment il est, sa coiffure, il y a des mèches. Il n'y a pas ce qu'enseigne Emmanuel d'iconographie ici de mèches qui se croisent, il y a une petite touche nisha, parce que les bodhisattvas ont droit aussi à l'ushnisha des Bouddhas, et il tient son kamandalu. Tout ceci paraît très bien. Vous verrez que ce n'est pas si simple que ça. Déjà, Madame Lobo avait contesté l'identification avec de bonnes raisons. Monsieur Lukshanitz a montré aussi que dans certains épisodes de la vie du Bouddha Shakyamuni, le bodhisattva, le futur Bouddha Shakyamuni, portait ce kamandalu et avait ce même costume. Alors il s'en est tiré en disant c'est tout à fait normal, puisque de toute manière, tous les bodhisattvas et tous les bouddhas ont exactement la même carrière, donc il est normal que le bodhisattva Maitreya soit représenté comme le bodhisattva Shakyamuni, et inversement. Façon de dire les choses. On reviendra là-dessus. Alors, par contre, voici donc un autre personnage qui est aussi un autre Shakyamuni. Vous voyez que contrairement... un autre Maitreya, le kamandalu est brisé. Vous voyez qu'ici, il a une ushnisha, pas le système compliqué de mèches que je vais vous montrer tout à l'heure. Et ici, je ne suis pas sûr que l'épisode soit identifié, mais enfin, apparemment, c'est l'urne funéraire du Bouddha. Et donc, si le bodhisattva est sur l'urne funéraire du Bouddha, c'est probablement qu'il est le futur Bouddha. Très bien. Donc, on en a un au moins. Donc, ce qui signifie qu'en principe, que les autres ne sont pas Maitreya. Ce qui va compliquer les choses, comme je vous disais, c'est que nous avons des statues de culte du Bouddha en tant que Bodhisattva. Le Bouddha, d'abord, il y a des textes des Mula Sarvastivadin que Chopin a édité, mais vous avez les inscriptions de Mathura qui appelle le Bouddha un Bodhisattva jusqu'en l'an 51, et puis vous avez cette superbe image qu'on appelle un Bouddha jeûnant, mais c'est un Bouddha avant la Bodhi, c'est un Bodhisattva. C'est un Bodhisattva, et vous voyez que bon, non seulement une statue de culte, mais en plus des personnages qui lui rendent un culte, il faut lire les deux ensemble, les personnages qui sont là sont en fait en face du Bouddha, et ils lui rendent hommage en face de ce qu'on a appelé un autel du feu, qui est en fait une lampe ou un brûloir d'encens. Donc, si le Bouddha Shakyamuni est également adoré comme Bodhisattva, on peut supposer, et c'est ce qu'on a supposé jusqu'ici, que ce personnage à superbe turban et à superbe collier, que vous pouvez voir au musée Guimet, qui est un bodhisattva de la collection Fouché, qui fait à peu près 60 cm de haut, ça fait à peu près ça, et qui est disposé de telle façon que vous pouvez avoir le nez sur le nombril, donc vous pouvez bien le voir. C'est évidemment le Bouddha Shakyamuni. Ce Bouddha Shakyamuni, il se retrouve, on ne le voit pas très bien, mais il se retrouve également au-dessus du coffre en fer qui est censé contenir. Ah, là je vais aller, je suis allé trop loin. Qui est censé contenir je pense que c'est ça, j'en suis pas sûr. Hein, l'image n'est pas très claire. Qui est censé contenir les cendres du Bouddha. C'est-à-dire qu'il est exactement dans la même position que le Maitreya de tout à l'heure. Serait-ce un Maitreya? Je ne pense pas. Mais en tout cas, vous avez un personnage à turban qui, en principe, peut être n'importe quel bodhisattva. D'autant plus que ici, sur son turban, vous avez quelque chose de très important que... Alors, il ne veut, veut plus grandir, celui-là? On va essayer. Ah, voilà. Oui. Vous avez un Garuda qui tient une Nagini, qui est interprété par tout le monde comme un joli bijou, un peu. Mais ce n'est pas un joli bijou en contexte indien, ça n'est pas un joli bijou indifférent. Alors, Madame Azarpaï a écrit tout un très joli article pour dire que ça faisait allusion à un Jataka que personne ne connaît, qui existe. Hein, mais en contexte hindou, tout ceci est immédiatement rapproché de Vishnu. Garuda est l'oiseau de Vishnu. Garuda tuant les serpents, ça fait partie des légendes de Vishnu. Et dans mon séminaire d'il y a 2 ans, je crois, je vous ai montré des statues manifestement d'Avalokiteshvara qui portaient une couronne de Garuda et un brassard de Garuda. Il est tout à fait clair qu'à partir du moment où vous avez désormais, maintenant que la statue de Mathura est identifiée, vous avez un instrument comme ça, enfin un ornement comme ça, sur un turban de Bodhisattva, vous pouvez vous demander s'il ne s'agit pas d'un Avalokiteshvara avant même que l'iconographie soit établie. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis cela? On va revenir. Non pas à celui-là, mais à celui-là. Et à celui-là. Alors, où est-ce que j'en suis dans mes machins? Un instant, ne bougez pas. Revenons. Il y a par contre des statues de Bodhisattva avec un turban, vous voyez, c'est à peu près la même chose, qui, elles, sont identifiées par le socle. Le socle représente ici une des quatre premières rencontres. C'est la rencontre du laboureur où le Bouddha s'aperçoit que vivre comme paysan, c'est fatigant et que c'est une douleur dans le monde, une douleur dont il faut s'affranchir. C'est un des épisodes marquant. Alors évidemment, c'est un épisode qui peut arriver à tous les bodhisattvas, mais il est toujours raconté de la vie du Bouddha Shakyamuni, et il est probable que vous avez véritablement un Bouddha Shakyamuni. Mais celui-ci, qu'est-ce que ça donne? Alors, il faut que je revienne sur ce que je vous ai dit sur l'état de confusion qui règne entre, disons, les années 50 et les années 120, dans les ateliers de sculpture indiens, qui ne comprennent pas très bien, de même que nous ne comprenions pas très bien, nous, jusqu'il y a une vingtaine d'années, qui ne comprennent pas très bien ce qu'est le bouddhisme, ce qu'est la différence entre le Hinayana, le Mahayana, pourquoi de temps en temps il ne faut pas représenter le Bouddha et pourquoi dans d'autres circonstances il faut le représenter, ni quels sont les Bouddhas. Nous sommes dans une époque d'effervescence où les choses vont très vite, ça c'est de l'an 5 de Kanishka, c'est un chef-d'œuvre, les choses vont très vite et l'iconographie n'est pas encore fixée, elle va se fixer après. Les textes qui nous permettent de fixer l'iconographie des bodhisattvas Avalokiteshvara et Manjushri, qui, elle, n'apparaît quasiment pas dans l'art du Gandhara, ce sont des textes beaucoup plus tardifs. Ils sont tardifs, qui ont 4, 5, 6, 7 siècles de plus que nos statues. Alors, cette statue, sans l'inscription, on saurait qu'elle est mayanique. Mais regardez un peu sur ça. Vous avez un très joli bodhisattva Maitreya. Bon, il n'a plus son kamandalu, évidemment, puisqu'il est brisé, hein, mais il a tous les caractères qui sont donnés dans les manuels d'iconographie pour Maitreya, et en particulier cette coiffure qui n'apparaissait pas dans les... c'est beau. Ah non, là, je suis allé trop loin, excusez-moi, qui n'apparaissait pas dans les statues que je vous ai montrées et qui est considérée par tout le monde comme typique de Maitreya. Je ne vous ai pas montré d'image avec cette statue, parce que les images avec cette coiffure, parce que les images où cette coiffure apparaissait de façon très claire n'avaient pas le kamandalu. Bon, c'est surtout le kamandalu qui... Donc tout le monde va prendre ça pour Maitreya, moi le premier, surtout si la statue est cassée. Mais quand vous regardez l'ensemble de cette statue dédiée par un bon moine, qui est-ce que vous voyez là? Un bodhisattva Avalokiteshvara, bien clair, avec dans son turban un Amitabha, qui correspond tout à fait au contenu de la fin de l'inscription. Donc, vous avez non pas une iconographie établie, mais une iconographie qui est en train de s'établir et qui ensuite va faire tache de neige et va servir pour tout le monde. Mais si on a là un Avalokiteshvara, c'est certainement pas Maitreya qui est de l'autre côté, parce qu'on n'a aucun texte ancien qui nous montre Avalokiteshvara à côté d'un Bouddha assis. Les seuls textes que nous ayons où il est question d'Avalokiteshvara et d'un Bouddha sont des textes du Mahayana. Alors, et en particulier un texte, le grand texte du Mahayana, le Sutra du Lotus, où effectivement il y a deux grands bodhisattvas autour du Bouddha. Vous avez Avalokiteshvara, il y a un autre qu'on ne connaît pas par ailleurs, qui s'appelle Mahastama Prapta. Et donc, logiquement, ce personnage qu'on va décrire comme Maitreya, c'est un Mahastama Prapta. Alors, problème, vous avez là un relief qui est peut-être à guillemets d'ailleurs, qui est un relief de Chotorak, qui est daté, disons, de l'époque de Kanishka. Vous voyez, un donateur couchant, un moine, on se croirait à Pâques, au dimanche des rameaux. Puis, vous avez un Bouddha, et ce Bouddha, il est entouré de deux bodhisattvas, dont un a un turban, exactement comme sur notre relief de l'enceinte, et exactement avec le Karmandalu. Alors, est-ce le Bouddha Shakyamuni entre Maitreya et Avalokiteshvara ? Ou est-ce, c'est-à-dire, une création iconographique qui n'est pas attestée dans les textes, mais qui est possible, puisque les gens qui rendaient un culte à Avalokiteshvara rendaient aussi un culte à Maitreya, très probablement. Il y avait deux précautions valent mieux qu'une. Et où est-ce qu'on a une illustration du Sutra du Lotus ? Il est absolument impossible de le dire, absolument impossible de le prouver, à partir du moment où on sait que dans un même monastère relevant du Hinayana, les textes mayaniques et les textes du Hinayana coexistaient à peu près à cette époque. Si l'on regarde ceci, on est encore plus embêté. Ce sont, comme vous pouvez le remarquer sans être un grand historien de l'art, ce sont des reliefs provenant de la même école de Saribalol, que, surtout celui-ci, que le relief du Bouddha de l'an 5. Et là, quand on regarde, on a un bodhisattva à turban, mais qui est sur la droite du Bouddha, plus sur sa gauche, et là, vous avez un autre bodhisattva. Et ici, même chose, ces deux bodhisattvas sont très proches. Celui-ci, c'est probablement un bodhisattva à turban. Est-ce que c'est la même scène que celle du Bouddha de l'an 5, ou est-ce que c'est une autre scène ? C'est-à-dire, est-ce que ce sont d'autres paradis, comme la Shobhyavyuha, par exemple, et est-ce que ce sont d'autres bodhisattvas ? Nous n'en savons strictement rien. Quand apparaît celui-ci, vous avez un bodhisattva assis entre deux bodhisattvas. Alors, on peut même, théoriquement, vous voyez la coiffure, on voit, là, il n'y a pas de Kamandalu, mais c'est le même type de coiffure, même type de turban. En plus, c'est un personnage dit penseur, faussement toujours considéré comme Avalokiteshvara, et vous avez un bodhisattva assis. Alors, est-ce un bodhisattva assis adoré par des princes ? Est-ce Maitreya dans le ciel des 33 dieux, ou est-ce un Avalokiteshvara adoré par d'autres personnages ? On n'en sait strictement rien. Même chose ici, ça c'est un relief de Mathura. Vous avez un personnage qui peut être un Bouddha Shakyamuni, un Bodhisattva Shakyamuni assis, et qui ne l'est certainement pas. Parce que quand vous avez le Bouddha Shakyamuni assis, lorsqu'il est méditant, ça n'est que, et qu'il a un turban, ça n'est que dans la première partie de sa vie, lorsqu'il est encore prince Siddhartha, et que son père essaie de le garder chez lui. Mais à ce moment-là, on le voit rarement méditant, ou s'il est méditant, on le monte sous un arbre, avec la scène, par exemple, la scène de labourage de tout à l'heure. Là, vous avez un personnage qui a un turban et qui est adoré comme un dieu et qui est très probablement un bodhisattva et qui est fort probablement Avalokiteshvara. Et quand vous voyez cette stèle célèbre de l'an 40, je crois, de Katra de Mathura, qui est-ce que vous voyez de chaque côté du Bouddha. D'une part, un Vajrapani dont je vous ai dit tout à l'heure ce qu'il fallait penser sur la signification, et d'autre part, un personnage qui a un turban et qui a des fleurs de lotus en la main, c'est-à-dire qui est en sanskrit, est un Padmapani, c'est-à-dire un Avalokiteshvara. C'est-à-dire qu'une des scènes les plus remarquables de l'art bouddhique ancien de Mathura, où en plus le personnage est appelé un Bodhisattva, celui-ci, c'est probablement un texte, une scène mayanique, mais une scène mayanique faite par quelqu'un qui ne comprenait pas très bien ce dont il était question. Ce qui nous amène à la stèle de Mohammad Nara, il y en a une dizaine, où il a fallu quand même près d'un siècle pour reconnaître une scène de paradis comme dans les grands textes du Mahayana, tout simplement parce qu'on pensait que ça n'était pas possible dans l'art du Gandhara et que depuis Fouché, on identifiait ça au miracle de Shravasti sans tenir compte de tout cet ensemble qui s'explique beaucoup mieux s'il s'agissait d'une scène de paradis, que ce soit le paradis d'Amitabha ou le paradis d'Akshobhya, que ce soit la Sukhavati ou la Bhirati. On a des scènes comme cela. Vous voyez qu'il y a encore énormément de travail à faire, exactement tout le travail d'interprétation en termes de Hinayana, Mahayana, dans l'art du Gandhara et dans l'art de Mathura est à reprendre maintenant, en fonction, en partie, de la preuve qu'apportent les manuscrits du Bhajaur. Il faut se poser des questions qu'on ne se posait pas avant. Ça va, contrairement à ce que j'aurais pu enseigner il y a 2 ou 3 ans simplement, vous dire qu'il y en a assez de faire de l'iconographie des reliefs du Gandhara, et qu'on ferait mieux de s'occuper de l'histoire de l'art maintenant. Mais il est clair que sans chercher à faire systématiquement de l'iconographie, il faut cesser de penser que tous les reliefs sont automatiquement du Hinayana et se dire qu'ils peuvent être interprétés à la lumière des grands textes du grand véhicule et que de toute façon, pour les fidèles, ça n'avait pas beaucoup d'importance. Et que de toute façon, les fidèles eux-mêmes ne s'y retrouvaient pas. Voici un exemple clair qui est beaucoup plus tardif, qui est du 5e, 6e siècle, qui est un rocher de Chilas. Et là, pour être sûr d'être compris, l'artiste, parce que les gens qui ont gravé ça avec un caillou sont des artistes, ont mis ici le nom du Bouddha et ici le nom du Bodhisattva. Alors, ceci a été lu par Inhuber, d'ailleurs, qui a... Attendez, on va essayer de grandir ça. Alors, le personnage est ici. Bon, l'inscription dit de qui est le don pieux. Et ici, vous savez son nom. Et il a une couronne, il a une auréole. Il tend un collier, il est sur un siège de lotus. Et qui est-il? Je vous le donne en 1000, c'est Maitreya. Personne n'identifierait ce Bodhisattva comme Maitreya. Ici, c'est écrit Arya Bodhisattva Maitreya. Voyez donc que la confusion, elle n'est pas seulement dans nos esprits, elle est également dans l'esprit des gens, tout simplement parce que la plupart des gens ne faisaient pas les différenciations théologiques fortes qu'aujourd'hui nous faisons. Donc il y a beaucoup de travail à faire pour mes successeurs, évidemment. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, donc ça aura lieu en dessous. Je peux vous donner un certain nombre d'autres informations avant. Le 16 juin, au musée Cernouchi, Madame Bazin va parler des tantkas bouddhiques du Bhoutan. Madame Bazin est conservatrice au musée Guillemet. Et le 27 juin, un lundi, de 16h à 18h, il y aura en salle 4 qui est à côté une table ronde sur les dernières découvertes archéologiques en Bactriane, avec un certain nombre des acteurs de ces découvertes, et en particulier les directeurs de mission, Monsieur Pierre Leriche, qui est le directeur de la mission de Termez, donc sur la rive droite de l'Oxus, et Monsieur Philippe Marquis, qui est le directeur de la délégation archéologique française en Afghanistan. Alors, c'est une table ronde de travail, mais elle est ouverte à tout le monde. Et en attendant, je vous souhaite une bonne après-midi.